Portrait de femme, notre rendez-vous hebdomadaire. C'est avec Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires. Portrait de femme de notre matrimoine, bien sûr. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Odile, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une héroïne guadeloupéenne qui a un nom étrange. Elle s'appelle Solitude. C'est la rebelle des Maronnes, héroïne et martyre. Tout d'abord, une précision. Vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire, Maronne. Maronne, c'est le nom donné aux esclaves fuyant la propriété de leur maître où ils étaient maltraités, et ce, en Amérique ou aux Antilles, à l'époque coloniale, c'est-à-dire grosso modo du 15e au 19e siècle. Le fugitif est appelé marron, d'après cimarron, le terme espagnol d'origine qui veut dire sauvage. Ceci n'a donc rien à voir avec la couleur de leur peau, bien sûr. Le marronnage fut un puissant mode de résistance que les esclaves adoptèrent très tôt dans toutes les Antilles, le symbole de la quête de la liberté, de la résistance à l'esclavage. Solitude, de son vrai nom Rosalie, est née vers 1772 à Capesterre-Belle-Eau, en Guadeloupe, cette île des Antilles qui, vue du ciel, a la forme d'un papillon aux ailes déployées car elle est formée de deux îles, Basse Terre et Grande Terre, séparées par un bras de mer, la rivière Salée. L'île est colonisée par la France dès 1635, mais au milieu du XVIIIe siècle, 1700-1800, on comptait en Europe cinq grandes puissances coloniales, le Portugal, l'Espagne, la Hollande, l'Angleterre et la France. On sait peu de choses sur les origines de Solitude. Il semble qu'elle soit la fille d'une captive africaine violée par un marin français blanc sur le navire négrier qui la déportait aux Antilles. Vers l'âge de 8 ans, Rosalie est séparée de sa mère, car celle-ci s'enfuit dans les bois, disparaissant à jamais de son existence. On ne sait à peu près rien non plus des années qui séparent l'enfant abandonné de l'instant où une jeune fille s'attribuera elle-même ce nom qui résonne comme un défi, Solitude. Ce nom n'est porté sur aucun acte de vente d'esclaves. Il n'apparaît qu'à la fin de sa vie sur l'acte de condamnation à la peine suprême. Un colon remarque qu'elle a la peau et les yeux clairs. C'est le résultat du métissage dû à la rencontre des femmes noires et des marins blancs par le viol. Selon la biographie établie par le romancier André Schwarzbach dans son roman « La mulâtresse Solitude » paru en 1972, ce métissage résultait de la pratique dite « la pariade » P-A-R-I-A-D-E. C'est une pratique qui consistait à livrer les femmes noires promises à l'esclavage aux marins blancs, le plus souvent ivres, avant l'arrivée à quai des navires négriers européens sur lesquels elles se trouvaient. En ce qui concerne la France, ces navires partaient du port de Nantes. Ce sont les négociants, commerçants et armateurs sans scrupules et sans état d'âme qui sont à l'origine de ce commerce d'êtres humains. Ils venaient donc livrer leur cargaison aux colons, grands propriétaires des champs de canne à sucre, de bananes ou de coton, eux aussi dénués de scrupules, qui avaient grand besoin de cette main-d'œuvre gratuite, corvéable à merci, pour exploiter les richesses du pays. Les populations autochtones, donc les Indiens, ayant été décimées par les maladies importées par les Blancs et par les mauvais traitements que ceux-ci leur infligeaient. Solitude est surnommée la mulâtresse. Ce qualificatif est souvent accolé à son nom selon le vocable colonial qui servait à désigner une personne métisse. Ce terme méprisant est utilisé là aussi par les négriers et les colons. Il vient du mot mulet. Les mulets sont des animaux stériles, produits de la saillie d'un cheval sur une ânesse. Quand l'abolition de l'esclavage est décrétée en 1794 par la Convention pendant la Révolution française de 1789, mais pas appliquée par les colons en Guadeloupe, Solitude intègre une communauté maronne de la Guadeloupe installée à Goyave. Elle y mène quelques mois une existence radieuse, mais le 3 février 1798, les troupes du général Desfourneaux enlève d'assaut le camp de la Goyave et extermine ses chefs. Solitude prend alors le commandement des survivants et survivantes et à partir de là commence sa légende. Sa bande errera ainsi, pourchassée par les troupes françaises et les milices noires, jusqu'à l'arrivée au pouvoir du consul Bonaparte, qui est bien décidé à rétablir officiellement l'esclavage. Avec Cambacérès, deuxième consul, et Talleyrand, ministre des Affaires extérieures, il charge le général Richepanse de mater la rébellion. Le 5 mai 1802, 4000 soldats débarquent à Pointe-à-Pitre. Le colonel d'infanterie, abolitionniste et intellectuel d'origine martiniquaise, Louis Delgrasse, lance à la Guadeloupe noire un appel à la résistance. Solitude, enceinte de 3 mois, se rallie à cet appel. Elle participe à tous les combats acharnés, de victoire en victoire d'abord, puis de revers en revers, jusqu'à la défaite finale. Les forces coloniales, en effet, acculent 300 résistants et résistantes dans l'habitation fortifiée d'Anglemont à Matouba. Le 28 mai 1802, tout espoir est perdu. Delgrasse fait truffer le bâtiment de barils de poudre et lorsque l'armée y pénètre, le bâtiment explose. Ainsi s'est achevée la révolte des esclaves en Guadeloupe. Ainsi fut respectée jusqu'au bout la devise choisie par eux, la liberté ou la mort. Parmi les 300, quelques-uns survivent. C'est là, au milieu des corps déchiquetés et enchevêtrés, qu'on ramassera la mulâtresse Solitude pour la transporter à la prison de Basse-Terre. Elle est suppliciée et exécutée le 29 novembre 1802, au lendemain de son accouchement d'un fils qui sera remis à un esclavagiste. Elle a 30 ans, mais elle est devenue comme une vieille femme. Ses cheveux sont tout blancs. Alors, l'esclavage sera aboli en Guadeloupe 46 ans après, en 1848, à l'initiative de Victor Schœlcher, 1804-1893, en tant que député, abolition pour laquelle il avait lutté depuis 1840, en tant que député de la Guadeloupe et de la Martinique. Après un très long temps de silence à son sujet, aujourd'hui, la rebelle Solitude fait partie de notre matrimoine. Elle est l'héroïne nationale en Guadeloupe, une héroïne forte dont la statue monumentale la montrant enceinte et campée sur le boulevard des héros aux abîmes à la Guadeloupe. Alors une citation non pas d'elle mais de son compagnon d'armes Louis Delgrasse, très courte, « La résistance à l'oppression est un droit naturel ». C'est la proclamation du 10 mai 1802 qui annonce l'entrée des Maronnes en résistance contre le rétablissement de l'esclavage. Et le 10 mai, c'est justement la date choisie par le président Jacques Chirac en 2006 pour être la journée nationale de commémoration de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Je vais citer mes sources peut-être maintenant. Il y en a 4 principales. D'abord, toujours l'exposition « Notre matrimoine » du journal Clara Magazine, 2019, panneau numéro 6. Le cours d'histoire Malé-Isaac, 17e et 18e siècle, classe de seconde, librairie Hachette. Hommage à la femme noire de la romancière guadeloupéenne Simone Schwarzbach, comportant plusieurs volumes magnifiquement illustrés, édition consulaire, 1998. Et puis France Culture, émission à voix nue, entretien avec Simone Schwarzbach, 4e épisode, intitulé « Dans les oreilles et sur la langue de Solitude ». Cet épisode évoque le roman « La mulâtresse Solitude » publié par André Schwarzbach en 1972, comme on l'a dit, œuvre qui a osé s'atteler à l'ignominie de l'esclavage et à la beauté de la résistance, et qui pour cela a été fortement contestée à sa sortie. C'est une série d'entretiens diffusés pour la première fois en 2017 sur France Culture. Les noms des rues et les statues. En 2007, il y a une statue érigée à Bagneux dans les Hauts-de-Seine. Le 26 septembre 2020, donc tout récemment, Anne Hidalgo, maire de Paris, inaugure le jardin Solitude dans le 17e arrondissement. Elle annonce le projet d'installer à terme sa statue dans ce jardin. Il s'agirait alors de la première statue de femme noire à Paris, qui ne compte que 40 femmes historiques, je dis bien historiques, sur le millier de statues parisiennes. Enfin, à Nantes, un mémorial de l'abolition de l'esclavage a été dressé car la traite des Noirs fait partie de l'histoire de la ville. Du XVIIe au XIXe siècle, la traite des Noirs occupe une place déterminante dans le commerce nantais et contribue à la prospérité de la ville. On trouve à Nantes, non pas une rue ou une statue de solitude, mais un espace Louis Delgrès, son compagnon d'armes, 89 quai de la Fosse. Voilà, en résumé, l'histoire tragique de solitude, indissociable de l'histoire de la traite et de l'esclavage des populations colonisées par des prédateurs blancs européens.
Merci Jacqueline. Je voulais juste rajouter un petit mot sur Pierre Souhaité qui a écrit Le prix de la liberté, justement, il a écrit ce livre donc sur l'esclavage. C'est intéressant.
Oui, bien voilà. Sûr, bien sûr. Il faut citer tous les ouvrages qui se rapportent à cette période.
Merci, à la semaine prochaine.
Merci, à la semaine prochaine. Bonne journée à toutes et à tous.
Au revoir.
Au revoir.